VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 15 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Mouamadou Oumfa.
On commence avec le sommaire.
Plus de 80 000 personnes ont fui depuis 10 jours l'extrême nord du Cameroun. La région est en proie à des violences communautaires qui ont fait au moins 22 morts.
Opération militaire RDC Ouganda, les résidents rapportent de nouveaux tirs d'armes lourdes.
La rumba congolaise, désormais patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'UNESCO a annoncé mardi l'admission sur sa liste de cette musique phare des deux Congos.
Ici aux États-Unis, Mark Meadows, bras droit de Donald Trump, est renvoyé devant des procureurs fédéraux qui devront décider ou non de l'inculper pour tentative d'entrave à une enquête du Congrès.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La France a transféré mardi aux forces armées maliennes l'emprise de Tombouctou dans le nord du pays, du Mali, où elle a fermé sa base militaire comme prévu dans le cadre du redéploiement des soldats français de l'opération Barkhane annoncée l'été dernier par le président Emmanuel Macron. Ce transfert intervient après celui de la base de Kidal en octobre et de la base de Tessalit en novembre. Une base aérienne malienne doit remplacer l'entreprise française.
La réarticulation de la stratégie française dans le Sahel s'opère dans un contexte politique tendu. Les relations entre Paris et Bamako se sont crispées depuis le double coup d'État au Mali et Barkhane fait face à une hostilité grandissante dans la zone.
Plus de 80 000 personnes ont fui depuis 10 jours l'extrême nord du Cameroun pour se réfugier au Tchad. C'est après des violences intercommunautaires qui ont fait au moins 22 morts. Les précisions de John Lyndon.
Il y a 82 000 réfugiés camerounais qui ont traversé le fleuve Chari qui sépare le Tchad et le Cameroun. Selon Papa Kisma Silla, représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad, les arrivées continuent, a-t-il poursuivi. Selon le HCR, des affrontements entre pêcheurs et éleveurs ont fait au moins 22 morts et une trentaine de blessés graves dans le département du Logone et Chari depuis le 5 décembre. Quelques 43 000 personnes ont fui vers N'Djamena, la capitale tchadienne. L'hygiène est un grand souci, tout comme l'éducation, car les femmes et les enfants représentent entre 50 et 60% de ces réfugiés, souligne le HCR. Dans un communiqué, Mohamed Idriss Déby Idno, le chef de la junte au pouvoir au Tchad, évoque une situation préoccupante et appelle la communauté internationale à agir vite pour fournir en urgence l'aide nécessaire à ces nouveaux réfugiés.
Le parti de l'opposant gambien Ousseynou Darbo a annoncé avoir demandé mardi à la Cour suprême d'annuler la réélection proclamée du sortant Adama Barrow à la présidentielle, accusant ce dernier de multiples irrégularités dans l'achat de voix. Adama Barrow, dont l'accession à la présidence il y a 5 ans avait mis fin à plus de 20 années de dictature, a été déclaré vainqueur par la commission électorale de la présidentielle du 4 décembre avec environ 53% des voix contre environ 27% pour le principal de ses 5 concurrents, Ousseynou Darbo.
La communauté internationale a signalé qu'elle serait attentive à l'acceptation ou la contestation par les perdants des résultats officialisés par la commission comme un indicateur des progrès accomplis par cette jeune démocratie en transition.
De nouvelles détonations d'armes lourdes ont été entendues mardi dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée ougandaise a pilonné il y a 2 semaines des fiefs supposés des rebelles des forces démocratiques alliées. Le point avec Rosine Munezero.
C'est tôt le matin que nous avons entendu des détonations des bombes tirées à partir de l'Ouganda, a déclaré Tony Kitambala, journaliste basé à Kamango dans le nord Kivu, près de la frontière avec l'Ouganda. Ces tirs se sont passés exactement comme ceux du 30 novembre qui ont marqué le début des opérations de l'armée ougandaise sur le sol congolais, puis les tirs ont cessé. Des rebelles ADF ont érigé leur base dans cette zone située à l'est de la route nationale numéro 4, aux confins des provinces de l'Ituri et du nord Kivu, où ils occupent plusieurs villages près du parc national des Virunga, selon des déplacés et la société civile locale. Les armées congolaises et ougandaises qui mènent des opérations conjointes contre les rebelles ADF n'ont pas communiqué sur ces bombardements, ni sur le bilan.
C'est la fête dans les deux Congo. La rumba fait officiellement partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a annoncé hier l'UNESCO. La rumba rejoint dans les annales de l'histoire les polyphonies pygmées de la Centrafrique et les tambours royaux du Burundi. Claire Morin-Gibourg.
Au paradis des ambianceurs, les Papa Wemba, Grand Calais, Taboulé Rochereau et autres sont heureux. La rumba fait son entrée dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Les réseaux sociaux se sont enflammés immédiatement. Alléluia ! Enfin, une belle victoire ! Nombreux sont les messages qui ont salué cette inscription comme une reconnaissance, mais aussi un défi à relever pour faire vivre et prospérer cette passion commune sur les deux rives du fleuve Congo. Ce joyau culturel est reconnu pour sa valeur universelle. S'est félicité sur Twitter le président de la RDC, Félix Tshisekedi. À Brazzaville, Jacques Iloki, de l'Association des peintres du Congo, affirme que cette inscription est une reconnaissance parce que la rumba est le trait d'union entre les deux rives du fleuve Congo. La rumba, dans sa version moderne, est une musique des villes et des bars avec son mode de vie et ses codes vestimentaires comme la sape, d'après le professeur André Yokali, directeur de l'Institut national des arts à Kinshasa.
Tunisie, Washington salue le calendrier électoral établi par le président Kais Saied. Le chef de l'État tunisien a prolongé lundi le gel de l'Assemblée nationale jusqu'au nouveau scrutin législatif dont il a fixé la date au 17 décembre 2022.
Nous accueillons favorablement l'annonce du président Saied d'un calendrier prévoyant une voie vers la réforme politique et des élections parlementaires, a affirmé le porte-parole du département d'État Ned Price dans un communiqué. Les ambassadeurs des pays membres du G7 et de l'Union européenne en Tunisie avaient appelé vendredi à un retour rapide aux institutions démocratiques. L'opposition tunisienne a décrié ce qu'elle considère comme une nouvelle dérive autoritaire à 3 jours du 11e anniversaire de la révolte ayant renversé la dictature.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les élus de la Chambre américaine des représentants se sont prononcés mardi soir en faveur de poursuites contre Mark Meadows, l'ancien chef de cabinet de Donald Trump et un de ses plus proches conseillers en raison de son refus de témoigner dans l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier. Par ce vote, Mark Meadows est renvoyé devant des procureurs fédéraux qui devront décider ou non de l'inculper pour tentative d'entrave à une enquête du Congrès. Abdourahman Dia.
Mark Meadows, le chief of staff de l'ex-président, est au cœur de toutes les attentions. L'homme de 62 ans oppose son mutisme à toutes les injonctions à comparaître émises par la commission dite du 6 janvier. C'est au motif qu'il tente, par son silence, d'entraver une enquête du Congrès que Mark Meadows risque d'être poursuivi par le département de la justice qui aura le dernier mot. Pourtant, l'ancien haut responsable de la Maison-Blanche a fourni des milliers de pages de documents officiels, courriels et SMS aux enquêteurs. Certains des SMS adressés à Mark Meadows ont été lus à haute voix par le groupe d'élus chargé de l'enquête parlementaire. Ces messages proviennent d'élus républicains, personnalités de la chaîne conservatrice Fox News et même du propre fils du président Donald Trump Jr., tous l'implorant de pousser Donald Trump à prendre la parole pour faire reculer ses partisans qui prenait alors d'assaut le Congrès.
Un juge fédéral américain a rejeté mardi la requête de l'ancien président Donald Trump qui voulait empêcher le Congrès d'obtenir ses déclarations d'impôts selon des documents judiciaires. Cette décision du juge Trevor McFadden d'un tribunal de Washington nommé par Donald Trump durant sa présidence est un revers majeur pour Donald Trump qui s'est battu bec et ongles pour ne pas rendre publiques ses déclarations d'impôts malgré sa promesse de campagne en 2016.
Le variant Omicron se propage à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant, a averti mardi l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelant à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que le système de santé ne soit rapidement submergé à l'approche des fêtes de fin d'année. De nombreuses incertitudes planent encore sur la nature de ce nouveau variant qui a replongé la planète dans la panique depuis qu'il a été détecté courant novembre par l'Afrique du Sud.
Les Nations Unies ont accusé mardi les talibans d'être, en dépit de leur promesse d'amnistie générale, responsables d'au moins 72 exécutions extrajudiciaires depuis le mois d'août, ce que les nouveaux maîtres de Kaboul ont nié en bloc. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux se montrent déjà préoccupés par ces exécutions. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
À présent, la minute écho avec Eric Manirakiza.
Kinshasa veut accorder une place de choix au développement des infrastructures de transport. Devant les deux chambres du Parlement congolais, le président Félix Tshisekedi a annoncé lundi la mise en œuvre en 2002 de 9 projets pour densifier les infrastructures de transport. Les chantiers routiers ciblés concernent la réhabilitation et le bitumage de plusieurs sections de route portant sur plus de 1300 km. Le projet fluvial porte sur le déploiement de bacs devant faciliter la traversée entre la RDC et la République centrafricaine, séparée par le fleuve Oubangui. Dans le domaine aérien, il est prévu la modernisation et l'extension de plusieurs plateformes aéroportuaires d'envergure régionale comme internationale. Les 86 membres de l'OMC, représentant 90% du commerce mondial, participant aux négociations sur le commerce électronique, ont réalisé des progrès substantiels, ont annoncé les co-organisateurs de l'initiative, le Japon, l'Australie et Singapour. Selon la directrice générale de l'OMC, une bonne convergence de vues s'est dégagée dans 8 domaines, la protection des consommateurs en ligne, les signatures et l'authentification électronique, les courriers non sollicités, les données publiques ouvertes, les contrats électroniques, la transparence, le commerce sans papier et l'accès à Internet ouvert.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. On commence par le football avec la Coupe arabe des nations de la FIFA. Les demi-finales au programme aujourd'hui. 3 pays africains sont concernés. La Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. Les Fenecs qui vont compter sur le retour de Bounedjad et Belamri joueront gros face au pays hôte, le Qatar qui monte en puissance. L'autre demi-finale opposera la Tunisie à l'Égypte, un duel 100% africain qui promet d'ailleurs. La finale aura lieu samedi prochain. On vient à présent sur le continent. Kaba Diawara est nommé nouvel entraîneur de la Guinée. L'ancien joueur d'Arsenal et du Paris Saint-Germain a été nommé à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations suite au départ de Didier Sisse. Le technicien français a été relevé de ses fonctions après un parcours décevant lors des qualifications pour le Mondial 2022. Pour cette première expérience, Kaba Diawara, ancien capitaine de la sélection, aura donc quelques jours pour remettre les choses en ordre avant la CAN. Au Cameroun, le Sélection nationale logé dans le groupe B affrontera le Sénégal, le Zimbabwe et le Malawi. À moins d'un mois du coup d'envoi de cette CAN, le Cameroun a dévoilé son maillot pour la compétition. Confectionné par l'équipementier français, le coq sportif, celui-ci est évidemment de couleur verte et présente plusieurs nouveautés. La principale est l'apparition d'une épaulette rouge et jaune, les deux autres couleurs du drapeau camerounais côté gauche. De nombreuses marques de griffures sont aussi présentes sur le torse, histoire de montrer que les lions indomptables sont déchaînés avant d'entamer la compétition où ils affronteront le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert dans le groupe A. On enchaîne maintenant avec du basketball. Les éliminatoires de la zone ouest de la Basketball Africa League débutent aujourd'hui des demi-finales et à partir de 14h temps universel. Les Guinéens de Slack seront aux prises avec les Maliens de l'AS Police. En deuxième heure, les FAB du Cameroun seront opposés aux Congolais d'Espoir Foukache. A noter que seuls les 3 premiers seront qualifiés pour la phase finale de cette compétition prévue en mars prochain à Kigali au Rwanda. Et puis la NBA est avec vous Jean Rougier. Les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, avant de donner les résultats, il est bon de savoir que Stephen Curry est devenu hier le meilleur shooter de tous les temps à 3 points réussis en saison régulière, jusqu'alors propriété de Ray Allen. Il fallait à la star des Warriors marquer 2 tirs à longue distance pour réaliser cet exploit, ce qu'il s'est appliqué à faire contre les New York Knicks après moins de 5 minutes 4 ans en 3 tentatives seulement sous les yeux de son glorieux aîné présent dans la tribune ainsi que de Reggie Miller, désormais 3e de ce prestigieux classement. Voici les scores de la soirée de mardi. Golden State de Stephen Curry a battu les Knicks de New York 105-96. Les Raptors de Toronto se sont inclinés devant les Nets de Brooklyn 131-129 et Phoenix a pris le meilleur sur Portland 111-107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire reprend demain jeudi, 16 décembre, après des mois de suspension. À un jour de cette échéance annoncée par le gouvernement, comment s'y préparent les différentes chapelles politiques et quelles sont les attentes des populations ivoiriennes? Le reportage à Abidjan de notre correspondante Delphine Bouise.
Cadre de concertation entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. Le dialogue politique redémarre ce 16 décembre, sauf au changement de dernière minute. Les précisions du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.
À ce sujet, des courriers ont été adressés aux différents membres des partis politiques. Chaque responsable peut se faire accompagner de deux personnes. La date, c'est le 16 décembre, à la primature. Une fois que le dialogue sera engagé, les acteurs dans la salle pourront définir le reste des modalités.
Comment les chapelles politiques ont accueilli cette annonce? Pour le PDCI, parti septuagénaire, il est temps d'ouvrir tous les dossiers pour un dialogue inclusif et aller à une paix durable. Professeur Maurice Kakoudjikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI.
Le PDCI se réjouit que le gouvernement puisse ouvrir la reprise du dialogue politique avec tous les acteurs politiques. Le moment est venu d'ouvrir tous les dossiers, de discuter librement, d'aller à des compromis sur certains points pour que le climat politique reste le plus apaisé possible et pour que la réconciliation soit une réalité pour une paix durable pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Le FPI, qui se félicite de cette annonce, dit souhaiter vivement qu'elle permette de trouver les solutions appropriées aux divergences et incompréhensions qui débouchent souvent sur des violences. Pascal Afim-Gessan, président du FPI.
C'est une très très bonne chose. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire d'un consensus sur la vie politique et sociale du pays. Et donc, nous irons à ce dialogue avec des propositions concrètes dans un esprit constructif en espérant que ce dialogue permettra à la Côte d'Ivoire de faire des pas décisifs sur la voie de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale.
Pour cette rencontre, les attentes des populations sont grandes. Des personnes interrogées dans les rues à Abidjan sont toutes unanimes. Ces genres de rencontres peuvent briser le mur de méfiance entre l'opposition et le parti au pouvoir.
Nous voulons que l'objectif de chacun soit atteint.
Si ils se mettent ensemble pour dialoguer, pour discuter, je crois que c'est mieux pour tous les citoyens ivoiriens.
Nous voulons de cette rencontre que ça soit pour de bon, pour que le pays va de l'avant.
Et la société civile dit attendre beaucoup de cette rencontre. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Une baisse des précipitations autour du lac Tchad au Cameroun a entraîné l'assèchement des cours d'eau et aggravé le conflit entre agriculteurs et éleveurs pour des ressources rares. Anne Nzonke rapporte depuis Kousséri, à la frontière avec le Tchad, les efforts pour maintenir un climat de paix entre les communautés. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Mahamat Gaddaf examine les dégâts faits à sa propriété lors d'un récent affrontement entre agriculteurs et éleveurs. Il ne peut même plus se souvenir quand ni comment il a tout perdu.
On a perdu le mil, le riz, les chèvres, les poulets, beaucoup. Même moi là, à ma position là, j'ai l'argent. 400 000, j'ai mis sur le matelas, ils ont brûlé.
L'eau qui se fait rare dans l'extrême nord du Cameroun a généré un conflit meurtrier. La communauté des Mousgoum creuse des réservoirs pour arroser les champs et élever des poissons. Les éleveurs arabes perdent du bétail qui tombe dans ces trous et souhaitent que ces réservoirs, qui sont des pièges mortels pour leurs animaux, soient fermés. C'est une lutte pour la survie et les deux parties n'ont pas réussi à faire de compromis. La situation s'est aggravée. Moussa Yeni est un berger de profession.
Les affrontements ont commencé ici chez nous. Les Mousgoum sont venus nous attaquer. Nous avons fait appel à nos frères. Quand les Mousgoum ont vu que nous étions plus nombreux, ils se sont enfuis. Alors nous les avons poursuivis pour casser et brûler leur village.
La VOA a demandé des entretiens avec des responsables de la région de l'extrême nord du Cameroun qui ont refusé tout commentaire. Selon les Nations Unies, au cours des dernières décennies, la surface du lac Tchad, qui alimente l'extrême nord du Cameroun, a diminué de 95%. Les communautés vivant le long du lac, dont la plupart dépendent de l'eau, se battent pour le contrôle des ressources, ce qui entraîne des morts, des destructions de biens et des déplacements de population. Quelques 82 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad voisin. Le HCR et les autorités camerounaises ont récemment organisé une cérémonie de réconciliation au cours de laquelle des représentants des communautés se sont engagés à mettre fin à la violence. L'Agence des Nations Unies a également fait don depuis. Cela n'a pas suffi à résoudre le conflit car de nouvelles violences ont éclaté peu après cette cérémonie. Jean Bosco Ruchatsi du bureau du HCR au Cameroun.
C'est le début. Parce que la restauration de la paix est un long processus, mais nous venons de nous engager résolument avec toutes les parties impliquées dans le conflit sur la voie de la réconciliation, de la cohésion.
Les experts estiment que d'autres solutions devraient être recherchées. Matt Mazra, de l'université de Maroua, dans le nord du Cameroun.
La solution, peut-être idéale, serait de trouver des ressources alternatives. Des ressources halieutiques alternatives qui peuvent passer par exemple par...
En attendant, Mahamat Gaddaf s'est mis à reconstruire sa maison dans l'espoir que plus personne ne viendra la détruire.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Protection de la nature, les États-Unis ont décidé de ne plus octroyer de visa à 8 ressortissants de la République démocratique du Congo, accusés de trafic d'espèces sauvages protégées et de bois. Pour comprendre les enjeux de cette décision, Eddie Sango a joint à Kinshasa le président de la Société civile de la conservation de la nature, Patrick Bourgeois-Bakwa.
Nous souhaitons véritablement que ce genre de mesures, ce genre de sanctions, ce type de décision puisse véritablement déboucher sur une voie beaucoup plus honorifique pour la biodiversité congolaise, pour la faune sauvage congolaise, en faveur des espèces sauvages qui sont très menacées. Mais il faut le dire, hein, il faut le dire clairement que ça, nous en tant que société civile, nous regrettons souvent nous regrettons plus l'absence de suivi de la part de nos autorités. Vous savez, c'est beaucoup plus regrettable que ce soit la communauté internationale qui intervienne régulièrement quand il y a des situations pareilles, quand la biodiversité congolaise est fragilisée, quand les éco-gardes sont tués à tout bout de champ. C'est souvent la communauté internationale, au niveau national, nous regrettons une certaine indifférence, un manque de suivi. Donc, de ce point de vue, nous sommes en train de proposer qu'il y ait véritablement des mécanismes de suivi en ce qui concerne ce type de décision, afin que ce comportement ne se répète plus.
Les frontières de la RDC semblent poreuses malgré tout ce qui est mis en place. Mais comment se fait justement cette protection pour empêcher cette sortie illicite d'espèces animalières protégées ou en voie de disparition et du bois et autres?
C'est quand même regrettable. Hein. Il faut le dire que les réseaux massiers en RDC sont beaucoup plus forts. On a remarqué ça. Nous, on a eu l'occasion de bourlinguer un peu dans plusieurs de nos provinces, notamment à l'est, où se trouvent plusieurs parcs de la RDC, dont l'emblématique parc national de Virunga. Tous ces réseaux massiers-là agissent avec des complicités nationales. Parfois, il y a même des autorités, certaines autorités, je veux dire, qui sont impliquées dans cette situation pour le moins déplorable, de braconnage des espèces, du commerce illicite des espèces totalement protégées. Et le parc national de Virunga, par exemple, est spolié. Vous savez, la grande spoliation au niveau du parc national de Virunga. Et cette spoliation-là aussi est en train de favoriser un certain nombre, de favoriser même le braconnage, de favoriser la criminalité faunique. Et qui sont ceux-là qui spolient le parc? Mais ce sont des généraux, ce sont des autorités, des gens qui sont connus de tous, mais qui ne veulent pas déguerpir.
C'était Patrick Bourgeois-Bakwa de la Société civile en RDC.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le bras de fer entre Bamako et la CEDEAO. Lors du sommet qui s'est tenu au cours du week-end, les chefs d'État de la région ont campé sur leur position, demandant que les autorités de transition du Mali respectent la date du 27 février 2022 pour la tenue des élections. Ceci au moment où des assises nationales de la refondation sont lancées au Mali et qui devraient trancher la question de la durée de la transition. Pourquoi l'intransigeance de la CEDEAO sur le calendrier électoral au Mali? Quels sont les risques d'une crise prolongée entre Bamako et la CEDEAO? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le conseil municipal de New York a voté pour permettre aux citoyens non américains de voter aux élections municipales. Cette décision permettra pour la première fois à quelques 800 000 habitants de la ville d'avoir une voix dans leur communauté locale. Un reportage de Caroline Pressotti, la narration est de Dilly Dico.
C'est une scène que vous ne voyez pas tous les jours. Des cours de tango sur les quais de la ville de New York. Voici Jacqueline Godoy. Bientôt, elle pourra faire quelque chose d'autre, d'aussi inhabituel. Voter. Jacqueline n'est pas une citoyenne américaine, mais désormais, elle pourra voter aux élections locales de New York. Elle explique que pour elle, ce sera une expérience différente de celle qu'elle a connue au Venezuela.
Il est bien connu que les élections là-bas ont été frauduleuses. Ici, vous avez en quelque sorte des garanties. Et vous pouvez être sûr que votre vote va compter.
Le conseil municipal de New York a adopté une loi donnant le droit de vote à 800 000 personnes supplémentaires. Cela inclut ceux ayant des autorisations de travail, des cartes vertes, mais aussi ces jeunes appelés « Dreamers » installés aux États-Unis depuis leur enfance et d'autres résidant légalement à New York. La ville de New York n'est pas la première. Plusieurs villes du Maryland, du Vermont et de la Californie offrent des droits de vote aux non-ressortissants. Mais l'idée ne devrait pas s'étendre aux élections nationales ou fédérales. Richard Briffaut est professeur en droit à l'Université Columbia.
Je pense qu'au niveau fédéral, ça ne se fera pas compte tenu du congrès actuel. Au niveau des États, il est également possible qu'il y ait plus de résistance.
Dans les rues de la ville la plus peuplée des États-Unis, les opinions sont majoritairement positives. Melissa Rojas habite à Brooklyn. Elle est issue d'une famille d'immigrants.
Ils sont à l'école, dans leurs universités ou au travail. Vous voyez qu'ils contribuent déjà à notre société. Alors, pourquoi ne pas leur donner une voix pour voter?
Roberto Centeno vit dans le Bronx.
Que vous viviez ici 30 jours ou 30 ans, tous devraient être traités de la même manière.
Trouver quelqu'un qui s'oppose à la mesure n'est pas facile dans cette ville de plus de 3 millions d'immigrés. Mais il y a des personnes qui n'y sont pas favorables. James Crisp est un habitant du Bronx.
Les laisser ici et leur donner le droit de travailler ici, ils devraient en être satisfaits.
Le sénateur républicain de l'État de New York, Rob Hort, a déclaré qu'autoriser les non-ressortissants à voter n'est pas correct car cela dévaluerait les votes des citoyens américains et serait irrespectueux envers les immigrants qui s'attellent à obtenir la citoyenneté et le privilège de voter. Un aspect logistique important à prendre en compte est la création de deux listes électorales distinctes, dont une avec les nouveaux électeurs qui ne peuvent voter qu'aux élections locales. Le professeur Briffaut dit que ce n'est pas si facile.
Je pense en fait que ce sera un énorme défi administratif pour le conseil électoral de bien faire les choses.
Comme le dit le dicton, il faut être deux pour bien danser. Alors Jacqueline Godoy ajoute que pour son premier vote aux États-Unis, elle choisira son candidat de la même manière qu'elle choisit son partenaire de danse. Une personne à laquelle elle se sent connectée et en qui elle peut avoir confiance.
Ce sera tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Mouamadou Mfa. À la mise en onde, Lionel Gaïma et à la technique, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à tous à l'écoute de VOA Afrique.